Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Interview que vous pouvez écouter sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire Lefranc. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, Claire Lefranc, vous êtes présente ici pour nous parler d'une promenade, même je dirais, entre la Drôme et l'Ardèche, de ferme en ferme.
Oui, tout à fait. C'est une manifestation qui se déroule tous les ans, le dernier week-end d'avril, et en fait qui offre la possibilité aux gens d'aller d'une ferme à l'autre pour effectivement visiter et voir comment les agriculteurs travaillent. Voilà, l'idée c'est vraiment de montrer notre savoir-faire.
Alors, la ferme, c'est celle qui produit ou alors c'est plutôt une ferme pour le tourisme ?
Alors, on est vraiment sur des fermes de production. Donc, en fait, l'idée, c'est de... la plupart de ces fermes là, ne sont pas des fermes qui ouvrent leurs portes toute l'année. C'est des fermes qui décident, ce week-end-là, de montrer leur savoir-faire de production. Nous, par exemple, on a un élevage ovin, on a de la lavande et on fait des céréales avec lesquelles on fabrique nos pâtes. Donc, on a un moulin, on transforme et tout ça. Donc, l'idée, c'est de montrer tout le cheminement, toute la logique qu'on a sur notre ferme et ainsi d'expliquer notre métier, en fait.
Et cette organisation de promenade et une découverte du milieu...
Oui, c'est un temps de découverte pour les gens, puis c'est aussi un temps d'échange, parce que moi, je m'aperçois, c'est la troisième année qu'on participe, nous, au GAEC des CIM, Arimont et Savelle, et c'est vrai qu'à chaque fois, on a des gens qui sont très intéressés pour voir quelle est notre façon de produire, quelle est notre philosophie, et il y a vraiment des discussions, et on est assez stupéfait de voir l'intérêt que portent les gens, en fait, à notre métier.
Cet intérêt, ça permet pour eux peut-être de se resituer dans leur existence ou c'est juste par curiosité ?
Je pense que c'est une volonté de savoir en fait ce qu'il y a derrière le produit agricole qui est proposé en fait. C'est vrai que la façon de... Comment dire ? Aujourd'hui, les gens ont envie de bons produits, de voir d'où ils viennent, d'avoir leur origine. Et là, en fait, en montrant comment on travaille, on explique... On explique en fait tout ça assez, et les gens sont friands de ça vraiment de plus en plus, je crois.
Vous disiez que donc il y a un intérêt croissant de personnes pour l'activité en ferme. Est-ce que ce besoin, c'est celui-ci qui vous a poussé à participer donc à cette organisation de Drôme de ferme en ferme?
Alors nous, on a fait le choix de participer parce que c'est vrai qu'on a notamment un produit qui est atypique sur une ferme puisqu'on fabrique des pâtes sèches. Donc on a été les premiers sur le territoire à faire ce genre de choses. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, en fait, ce produit-là n'est pas forcément un produit agricole. C'est plus un produit, quand on pense pâte, on pense industriel. Donc il y avait toute une pédagogie à avoir pour expliquer qu'effectivement nos pâtes étaient vraiment un produit fermier et que les pâtes qu'on fabriquait, on les fabriquait vraiment avec les blés qu'on cultivait sur place. Donc ça a été l'élément déclencheur. À côté de ça, ce qui est intéressant, c'est nous on est une petite exploitation de moyenne montagne en polyculture élevage et c'est vrai que pour nous l'intérêt c'est montrer toute la cohérence de la ferme. C'est-à-dire comment les différentes activités se complètent les unes les autres. Quoi.
Est-ce que la ferme aujourd'hui permet de subvenir tout au long de l'année aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a une ferme justement qui... Bon, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est agriculteur, donc c'est vrai qu'il y était. Mais la nouveauté, ça a été que justement, toutes ces activités ont permis à notre fils de s'installer avec nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est trois sur la ferme. Et dans nos petits villages du Diwa, c'est pas si évident que ça. Donc c'est vrai qu'on est plutôt content de tout ça. Et voilà, c'est aussi montrer toute cette logique-là et l'importance de l'agriculture pour le maintien de la vie dans nos villages, quoi.
Et les pâtes que vous fabriquez sont issues de quelles semoules ?
Alors on a plusieurs variétés en fait, on travaille sur des blés durs, On travaille sur des blés, sur de l'épeautre et du petit épeautre. Et puis on travaille aussi avec des blés anciens, qui sont des vieux blés poulards qu'on a remis en culture.
Et que vous faites pousser vous-même?
On fait tout pousser nous-mêmes.
Et ça nécessite beaucoup de superficie ou...
Alors en fait non, c'est pas forcément des grandes superficies, parce qu'en fait l'idée c'est vraiment, nous on a un système de rotation des cultures, et en fait c'est vraiment ça qui fait la force de notre ferme. Mais ce qui est surtout important, c'est de préserver en fait cette terre sur laquelle on sème, donc de pas les épuiser par de la monoculture. Et puis de valoriser après ce qu'on produit. On ne produit pas des grandes quantités, donc on a besoin de valoriser, sinon on ne s'en sortirait pas, quoi.
Et votre ferme est située sur quel territoire précisément?
Donc nous on est à Rimont-et-Savelle. Donc Rimont-et-Savelle, c'est dans la vallée de la Roanne, en fait, au-dessus du village de Saint-Benoît-en-Diois. C'est un village qui est situé à 1000 mètres d'altitude. Donc on a des terres qui vont de 800 mètres à 1300 mètres d'altitude, quoi.
Pour l'eau, c'est la Roanne qui vous alimente?
Non, on a une alimentation d'eau potable qui est faite par des sources. Après, les cultures qu'on a ne sont pas des cultures irriguées, il n'y a pas d'eau dessus, quoi.
Ce désir, vous avez rencontré aussi, je suppose, d'autres fermes, puisque vous me disiez hors émission que dans le Diois, il y avait 8 fermes participantes à ce de ferme en ferme. Et, est-ce que entre vous, vous envisagez d'autres complémentarités que cet événement?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, en fait, dans cet événement, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été initié au niveau du département de la Drôme, qui aujourd'hui, à cette date, se fait dans beaucoup de départements en France. Et c'est vrai que, du coup, entre les fermes qui participent, il y a comme un peu un réseau qui se crée forcément. Alors, pour cet événement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prépare quand même ce week-end ensemble, donc on a des temps de rencontre avant l'événement, mais aussi après. Pour l'idée, c'est vraiment qu'une ferme ne monopolise pas les gens sur cette journée, mais que bien les gens aillent d'une ferme à l'autre afin de découvrir la pluralité en fait de nos productions. Et en dehors de ça, c'est vrai que ça crée du lien, quoi. Ça crée du lien entre nos villages, et on va avoir peut-être tendance, si on a besoin de quelque chose de particulier, on pensera plus aux autres qu'on connaît déjà, quoi.
La vie de ferme en ferme, donc ce circuit, c'est le mot que je cherchais depuis le début de l'émission. Ce circuit, il est soutenu par la région, le département?
Alors en fait, donc c'est à l'initiative des CIVAM. Les CIVAM, donc c'est des associations qui luttent se battent pour tout ce qui est l'animation et l'initiative, l'innovation en milieu rural. Et effectivement, pour cette opération, on a le soutien du département. Et de la chambre d'agriculture, mais aussi des réseaux accueil paysan, des réseaux bienvenue à la ferme. Voilà, il y a des soutiens, des partenaires qui sont là.
Est-ce que vous œuvrez dans une charte bio?
Alors, nous sommes une ferme qui sommes en agriculture biologique depuis plus de 25 ans maintenant. Et en fait, dans les fermes qui ouvrent leurs portes, il y en a qui sont en bio, il y en a qui ne le sont pas. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça permet à chacun d'expliquer sa démarche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le bio peut certes être vécu comme une plus-value, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui travaillent en traditionnel et qui travaillent très bien. Donc tout est affaire d'explication. Et de la même façon, on peut aussi être en bio et... Parfois, pas avoir forcément... ce n'est pas uniquement un significatif de qualité, quoi.
J'avais une autre question. C'est pas grave, hein, je réfléchis, parce que j'avais une question. Je crois que c'était lié au bio, oui. Est-ce que, je voulais savoir, par exemple, est-ce que de ferme en ferme contribue à faire connaître, certes, le milieu rural, mais quoi d'autre encore?
Alors, dans les démarches, parce que c'est vrai qu'on parlait du bio, mais il y a aussi un point qui est très important au niveau des CIVAM, donc de cette manifestation aussi, c'est qu'il y a quand même la notion d'agriculture durable, qui est lorsque en fait on décide de participer à cet événement, on signe une charte d'engagement, et dans cette charte il y a un élément sur le fait de mettre en place une agriculture durable. Donc c'est vrai que ça c'est un critère qui quand même est important, quoi.
Est-ce que l'agriculture a toujours été votre domaine professionnel?
Alors, nous, on est trois sur la ferme, donc les cas sont différents. Donc mon mari, oui. Il est fils d'agriculteur et il s'est installé, il a fait des études agricoles et il s'est installé. Mon fils, c'est un peu le même schéma. Il a fait des études et puis il a décidé de revenir travailler avec nous. Moi, j'ai un parcours plus sinueux. Donc, je suis arrivée dans l'agriculture lorsque j'ai rencontré mon mari. Et ensuite, moi, j'ai aussi travaillé à l'extérieur de la ferme, quoi.
Votre mari, par exemple, était déjà agriculteur ou alors a-t-il vécu sur d'autres territoires avant de venir sur le Diwa, par exemple ?
Alors, il n'est pas né dans le Diwa, mais presque. Donc, oui, il est toujours resté sur le Diwa.
Est-ce que le Diwa ou ce paysage incite justement à travailler autrement que dans les plaines qui sont lourdement exploitées ?
Alors justement, nous, le fait de travailler, de faire de ferme en ferme, c'est très important par rapport à ça. La commune où on est une commune exceptionnelle au niveau de l'environnement. Et du coup, forcément, moi je dis souvent, quand on est dans un environnement comme celui-là, on ne peut pas faire n'importe quoi, on n'a pas le droit. Et du coup, quand les gens viennent voir où on produit et comment on produit, ça leur explique ça leur donne plein d'explications, plein de clés par rapport à ce qu'on leur propose en termes de produits, quoi. Et pour moi, c'est vraiment essentiel, quoi. Donc, c'est vrai que quand je fais des foires ou des salons ou des choses comme ça, je dis souvent aux gens, venez nous voir et vous comprendrez, quoi.
Vous participez à des foires par rapport à vos pâtes ou pour d'autres produits ?
Essentiellement les pâtes, mais aussi un petit peu la lavande, ou voilà, ça dépend des lieux où je vais, quoi.
Et alors, pour l'avenir, comment le voyez-vous, puisque la région semble encore plus se tourner vers le bio ?
Alors, le bio, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui préserve, hein, donc c'est vrai que c'est plutôt une plus-value. Après, ce qui, à mon avis, le point sur lequel il faut être vigilant, c'est qu'il faut qu'on reste sur un bio à taille humaine, quoi. C'est-à-dire que si le bio devient le sujet d'une industrialisation du bio avec forcément une course au bas prix, etc., voilà, on risque d'avoir les dérives avec le bio qu'on a eu à une époque avec de l'agriculture plus traditionnelle. Donc, moi, je dis souvent aux gens, avant de regarder si c'est bio ou si c'est pas bio, regardez à côté de chez vous ce qu'il y a, allez voir comment les gens travaillent et puis après, faites votre choix, quoi.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus d'autres fermes ? Je ne sais pas si vous les connaissez, pour présenter le parcours un peu.
Oui, alors sur les fermes qui sont sur notre circuit du Diwa, donc en fait, on peut partir du bas de la vallée. Donc ça démarre à Saillant avec la ferme Pimpreline qui fait de la spiruline. Donc ça, c'est Émilie. Voilà, qui se trouve en bas de d'Aubenasson à Saillant. Ensuite, nous avons la cave Raspail qui fait de la clairette de Die en bio, voilà, qui est une cave relativement connue, qui se trouve aussi à Saillant. Puis après, si on remonte la vallée, donc on a la cave Maïfo aussi, qui est bien connue dans le Diwa, qui est à Barsac, donc qui a aussi de la clairette et puis un vin rouge aussi qui viennent de développer. Donc après, il y a nous. Alors après, on peut prendre soit on continue dans le sens de la vallée de la Drôme, soit on monte effectivement vers chez nous à Rimont et Savelle. Donc si on passe par Rimont et Savelle, ensuite quand on peut rebasculer par le col du Royer, en fait, par le chemin forestier. Et là, on va arriver du coup à Solorant-Diwa, où il y a Pascal Huette qui a développé un fromage de chèvre en pâte pressée. Donc je crois qu'il va venir en parler. Donc voilà, ça sera, il saura mieux en parler que moi. Puis ensuite, il y a la ferme, une miellerie, en fait, qui s'est installée à Die, dans l'ancienne huilerie, qui faisait effectivement de l'huile d'olive, mais aussi à une époque de la farine. Donc ça, qui est sur Die même. Et enfin, on a dans la vallée de Quin, à Vacher-en-Quin, on a le Gaec de l'Héberger, qui fait des tomes de brebis, enfin des fromages de brebis, donc tomes, yaourts, etc. Et puis on a Véronica Mintel avec ce qu'on appelle, qui s'appelle le Quintet de Quin, et qui fait tout ce qui est, production à base de légumes et de condiments, donc en bio aussi. Donc, en fait, sur toutes ces fermes-là, Vacher, ils sont tous les deux en bio. Pascal, avec son fromage de chèvre, en fait, il a un label différent. C'est pas du bio, mais c'est un label différent, il vous en parlera. Et puis, la cave Raspail est en bio et la spiruline ne peut pas être en bio parce que c'est vrai que c'est particulier.
Je reviens un peu sur la même question que tout à l'heure je vous avais posée. Hormis cet événement du circuit de Fermont-Ferme du 29 et 30 avril, est-ce que vous envisagez d'autres événements du même type pour l'été, par exemple?
Alors, sur l'été, en fait, on n'est pas... collectivement, sur ce collectif, en fait, on n'a pas spécialement envisagé de choses particulières. Après, il y a un certain nombre de fermes qui peuvent ouvrir, en fait, l'été ou qui peuvent être... voilà. Alors, la plupart du temps, on est quand même des petites fermes, donc on est très sollicité. Et du coup, c'est pas toujours facile d'avoir des temps d'accueil. Donc souvent, c'est au cas par cas sur rendez-vous. Les gens nous téléphonent et puis voilà, ils nous disent on va passer. Est-ce que vous allez être là? Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et si je suis là, il n'y a pas de problème pour visiter ou pour voilà.
Où peut-on trouver vos produits, par exemple? Vous parlez de pâtes. Vous les vendez sur quel circuit?
Alors en fait, sur Digne, où on les a, elles sont à la Carline ou à l'épicerie centrale, en fait, dans des commerces qui ont eu envie de jouer le jeu avec nous, enfin qui sont connus pour ces démarches-là. Et puis après, moi, je vends beaucoup en magasin de producteurs. Donc sur Cré, sur Vaunavé, sur Poët-Laval, voilà, il y a pas mal de magasins de producteurs. Et après, ben, ça peut être éventuellement à la ferme lors d'un passage ou sur quelques foires ou quelques marchés, quoi.
Donc, j'invite les auditeurs. Est-ce que, par exemple, pour venir passer lors de ces 29 et 30 avril, vous avez prévu un numéro de téléphone pour des personnes qui désiraient passer? Ou alors c'est un lieu qui sera totalement ouvert au public, enfin aux visiteurs?
Alors en fait, le lieu va vraiment être ouvert et fléché pour l'accueil des visiteurs, parce que c'est vraiment deux jours où... toute la ferme est mobilisée pour l'accueil et pour leur expliquer notre fonctionnement. Donc en fait, c'est vraiment de la visite guidée de la ferme qu'on fait à ce moment-là. Et ce que je voulais signaler aussi, c'est que sur le circuit, en fait, il y a deux fermes qui font à manger à midi. Donc ça peut être une façon de faire une pause. C'est effectivement chez Véronica à Vachère. Et puis nous, on fait aussi à manger. Donc du coup, on est deux fermes un peu excentrées par rapport à d'éventuelles restaurations ou choses comme ça. Donc c'est vrai que ça permet, bah, dans le circuit, d'avoir la pause déjeuner. On fait une pause et puis après, on peut continuer le circuit.
Je suppose que vous n'avez pas le temps de gérer un blog, par exemple Internet, pour parler un peu de ce que vous faites au niveau de la ferme.
Ben, on a une petite page Facebook quand même, malgré tout. On essaye de tenir un peu les gens au courant, au moins des manifestations auxquelles on participe, des choses comme ça. Et puis, effectivement, quand on fait des choses un peu nouvelles, j'essaye de le mettre à jour, d'être à jour à peu près.
Est-ce que le quotidien est entièrement voué à la ferme, ou alors vous pouvez aussi vous prendre un peu de temps? Tout dépend de la production qu'on a, c'est ça?
Alors, il faut avouer que nous, sur les activités qu'on a, le facteur temps libre est vraiment très réduit, quoi. Mais on espère que ça va s'améliorer.
Et vous œuvrez pour ça, alors, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Bah, l'idée de se retrouver à trois pour travailler, c'est aussi... Alors, il y a le démarrage, mais on espère que dans le temps, ça nous permettra effectivement de dégager un peu de temps libre.
Eh bien, Claire, merci d'être venue nous parler donc de Ferme en Ferme du 29 et 30 avril 2017. Et puis, bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Pascal Huet, bonjour.
Bonjour.
Alors, Pascal Huet, vous êtes ici aussi pour nous parler de ce circuit de Ferme en Ferme qui se déroule fin avril. Dans le Diwa, par exemple, mais c'est aussi surtout les deux départements, Drôme et Ardèche. Comment se fait-il que vous soyez dans ce circuit?
Eh bien, c'est-à-dire que moi, j'ai changé un peu, je fais des chèvres depuis longtemps, mais j'ai changé un peu l'activité de la fabrication des fromages. Aujourd'hui, je fais des fromages uniquement à pâte pressée, dont un frotté à la clairette d'Audie, pour rappeler le terroir et tout. Et donc, c'est dans le but de me faire connaître. Et en plus, je suis nouvellement agréé Bleu Blanc Cœur. C'est une certification qui est le bien-être animal par rapport à des oméga 3 qu'on donne d'abord aux animaux, bien nourrir les animaux pour bien nourrir les hommes.
Votre activité tourne autour du bio?
Non, pas du tout. J'étais en bio avant, mais là, donc tout ce qui était parti, picodon, lactique, j'ai tout transféré au GAEC de Chamaloc, chez Yann et Audrey. Et donc du coup, moi, je me suis recentré donc sur un nouveau type de fromage, comme je vous disais, et je voulais avoir une différenciation au niveau de la certification. Et je suis parti vraiment sur cette certification bleu-blanc-cœur, qui est très peu connue ici, mais donc qui n'a pas de caractère bio, mais qui est quand même proche de l'environnement, parce qu'on n'utilise que des cultures qui ne demandent pas beaucoup de pesticides, ou voire pas du tout, ce type luzerne, trèfle et beaucoup de graines de lin.
Bleu-blanc-cœur, c'est de quelle origine précisément ?
Alors bleu-blanc-cœur, ça a été initié en Bretagne par un agriculteur qui au début remarquait que son lait d'été, il faisait du beurre, son lait d'été était beaucoup plus gras et tout. Il en a parlé à un médecin et qui en ont parlé à des gens de l'INRA où ils ont fait des études. Ils se sont aperçus qu'effectivement, le régime de l'herbe au niveau de l'été apportait beaucoup d'oméga-3 dans le beurre qui se retrouvait donc sur l'étal et qui était consommable. Et ils ont remarqué que si on nourrissait bien les animaux en oméga-3, avec un équilibre oméga-3 et oméga-6, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, ça se transférait aussi bien dans la viande que le lait, dans tous les produits, dont les œufs et tout. Et donc c'est de plus en plus en vogue parce que les médecins le reconnaissent que c'est d'une utilité. Il y a 40 ans, les oméga-3, on les trouvait largement dans notre alimentation parce qu'on avait encore, on nourrissait encore nos animaux d'une façon naturelle. Au jour d'aujourd'hui, l'agriculture s'est intensifiée et du coup, on a perdu cette part d'oméga-3 qui est très importante dans notre alimentation.
Bleu blanc-cœur, est-ce que c'est une approche de la politique agricole de la région ou on peut l'associer à ça ?
Pas du tout, c'est une approche personnelle pour l'instant, parce que j'en ai discuté avec des gens, bon moi je suis pas originaire d'ici, donc des gens du nord de la France et tout, et c'est en train de prendre un impact, sauf dans le sud-est pour l'instant, où on est encore très pauvre dans ce domaine-là. Mais voilà, fallait commencer par quelque chose, et donc et ben voilà, j'étais un peu le précurseur. Je suis le précurseur au jour d'aujourd'hui, mais j'espère attirer beaucoup de monde.
Et alors, Bleu Blanc-Cœur induit un circuit de distribution aussi ?
Alors, eh ben, le circuit de distribution, comme je vous dis, dans le sud-est, est encore très, très faible. Mais oui, par des, il y a Good Food au niveau internet qui le distribue. Et puis après, eh ben, on le distribue dans des magasins. On le trouve dans sous forme de grandes marques aujourd'hui. Hein, le jambon, tout ça, on le trouve en supermarché avec les Fiji Bleu Blanc-Cœur.
Pour vous, quel est cet intérêt de participer à ce circuit ? Est-ce que ça permet de vous faire connaître déjà au niveau local, mais aussi de montrer une autre manière d'être agriculteur ?
Bah, tout à fait. Bon, au niveau local, la ferme de Craponne, donc Pascal, c'est la ferme de Craponne. J'étais un peu connu quand je faisais le marché avec tout ce qui était picodon, fromage lactique. Aujourd'hui, ben, je ne fais plus le marché. Je vends plus en magasin ou à des magasins de distribution. Et donc, du coup, je veux me faire connaître au niveau du nouveau produit parce que je fais uniquement, comme je vous disais tout à l'heure, des pâtes pressées. Donc, il y a plusieurs formats, plusieurs recettes, mais c'est uniquement en pâtes pressées, dont une frottée à la clarette de Die qui apporte un petit goût, une petite saveur particulière. Et par rapport à cette nouvelle certification Bleu Blanc-Cœur, donc c'est vrai que de ferme en ferme, j'espère recevoir beaucoup de monde pour pouvoir leur expliquer ce que c'est justement cette nouvelle certification. Et leur présenter mon nouveau fromage et aussi avoir plus de distribution. Et puis, c'est parler de notre métier, quoi. Comme je vous dis, nous, on essaye de valoriser nos produits par rapport au bien-être animal et tout. Et c'est de l'expliquer à tous les consommateurs qui ne savent pas toujours comment c'est produit.
Et cette nouvelle manière pour vous de produire votre fromage, est-ce que ça lui donne aussi un aspect différent de ce que vous faisiez auparavant ?
Ah bah tout à fait, oui, c'est pas du tout le même fromage, mais moi je suis parti dans cette optique-là car je voulais faire un fromage que j'aimais, donc c'est pas que j'aimais pas le picodon, mais moi on me présente un plateau de fromage, au jour d'aujourd'hui je vais d'abord sur des pâtes pressées, type Saint-Nectaire, type Comté, type Beaufort, donc je voulais faire ce genre de fromage, en chèvre c'est plus dur parce que c'est un animal qui donne un lait pas très riche en matière grasse. Et donc du coup, pour avoir cette souplesse, il a fallu travailler sur les ferments, sur le process de fabrication, parce que je chauffe un peu le lait entre 32 et 34 degrés. Donc oui, c'est un nouveau produit qui est totalement différent, mais qui apporte un plus pour moi.
Et alors, l'aspect de ce fromage, il est de quelle taille, quel grammage ?
Alors ce fromage se décline en deux formats, la petite tomate qui tourne autour de 450-500 grammes et la grosse tome qui est plus dédiée au magasin à la coupe qui fait 1,5 kg à peu près. Quoi. Et un autre fromage qui fait à peu près 2 kg.
Vous disiez donc que le lait de chèvre n'avait pas trop de matière grasse. Est-ce que ça veut dire aussi que votre manière de faire votre fromage nécessite plus de quantité de lait pour le fabriquer ?
Ben non, parce que j'ai, par rapport au chèvre, j'ai été chercher une race en Espagne, donc je suis un peu délocalisé, parce que c'est une race qui donne beaucoup moins de lait que les races qu'on trouve dans notre Diois, c'est-à-dire la Sanenne ou l'Alpine, mais qui donne un lait beaucoup plus riche donc pour fabriquer ce genre de type de fromage.
Racontez-moi ce qu'est une journée de producteur de fromage.
Ah ben une journée de producteur de fromage commence souvent par la traite des chèvres, pour avoir le lait, et puis après, donc on traite matin et soir, et puis après on travaille le lait tout le matin, parce que ce genre de fabrication de pâte pressée, je vous disais tout à l'heure, on chauffe le lait, donc ça demande des temps de maturation. Alors on ne travaille pas forcément tout le temps, parce que ça fait une bonne matinée jusqu'à midi, on s'est enlevé à 7 heures, quoi. Mais donc on a des pauses parce qu'il faut que le lait travaille, que le lait atteigne une certaine température et que les ferments que l'on met dedans puissent travailler lentement pour justement obtenir cette pâte souple que moi je recherche dans mon travail, quoi. Et puis après, et ben l'après-midi, c'est plus les soins aux animaux. Dès qu'il fait beau, et ben on les emmène sur les parcours pour la garde. Et le soir, et ben, traite à nouveau et on stocke le lait au froid pour le lendemain matin.
Est-ce que lors de la production, vous éprouvez un émerveillement de la fabrication ?
Ah ben moi, je pense que mon métier, je le fais depuis longtemps et je le fais toujours par passion. Je recherche toujours à améliorer parce que je suis un éternel insatisfait. Donc je cherche toujours à améliorer mes produits, à améliorer l'élevage, à améliorer les conditions d'élevage. C'est comme ça qu'en fouinant et cherchant, j'ai trouvé ce fameux logo, enfin cette certification BBC qu'on ne connaît pas ici. Oui, moi c'est un plaisir. J'ai dû arrêter, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier, j'ai dû arrêter 2-3 fois pour des raisons familiales ou autres. Mais je suis toujours retombé dedans. C'est vrai que la chèvre, c'est... Voilà, j'étais pas né là-dedans, mais c'est un animal que j'ai découvert et que j'adore. Et c'est un métier, la fabrication du fromage, que je trouve superbe.
Et vous possédez combien de bêtes
45 chèvres, j'ai 45 chèvres. Donc c'est un petit troupeau, c'est pas énorme, qui produisent raisonnablement, sans excès et tout. Mais transformation en fromage et tout, c'est pour moi tout seul, parce que je travaille tout seul, c'est amplement suffisant, quoi.
Suffisant pour vivre ?
Pour vivre, bah, ça dépend ce qu'on entend. Il y en a qui trouveraient ça très bas.
Au moins de finir son mois tranquillement. Quand
de
même.
Finir son mois tranquillement, voilà. Et puis c'est un plaisir de travailler déjà pour soi, chez soi. Donc après, on ne demande pas une quantité d'argent énorme, vu qu'on a déjà un plaisir au quotidien, et sans frustration et sans stress. Donc c'est déjà pas mal, je pense.
C'est vrai que le Diois prête à être moins consommateur.
Oui, parce qu'on a un plaisir de vivre déjà, une façon dans la nature d'être qui fait qu'on a, on n'a pas tous ces substituts qui pourraient combler un certain manque qu'ont malheureusement, parce que je les envie pas, les gens des grandes villes ou des gens dans des campagnes où ils souffrent un peu, quoi. Tout à fait, le Diois, c'est quand même, on se nourrit de pas grand-chose par rapport à l'émerveillement qui nous entoure.
La distribution proprement dite qui débute, est-ce que vous envisagez de l'exploiter au niveau national ?
C'est déjà le cas, je vends déjà un petit peu sur Ingis, je vends dans la région de Clermont-Ferrand et puis sur Toulouse, c'est par des connaissances, des gens qui ont des magasins et tout, et je le vends aussi dans le Diois. Mais c'est vrai que bon, je recherche toujours des revendeurs et puis je recherche par rapport au nouveau logo Bleu Blanc-Cœur aussi des magasins qui pourraient avoir élargir une gamme avec ce logo.
Le nom de ce fromage, vous l'avez indiqué ?
C'est le Solor.
Le Solor.
C'est la nouvelle commune. Avant, on s'appelait Aix-en-Diois. Maintenant, c'est Solor-en-Diois. Et c'est vrai qu'avec notre ancien maire, qui est là, c'est parti trop tôt, on avait décidé de l'appeler Solor.
Quel avantage trouvez-vous, ces rapprochements de village en Solor ?
Ce rapprochement de village, ben c'est bien, parce qu'on découvre nos voisins qu'on connaissait, mais sur un autre angle et tout. Et de toute façon... sans rentrer dans la politique, mais je pense qu'on sera obligé tout doucement d'aller vers des regroupements. Donc c'est bien pour nous.
Qu'est-ce qu'on pourra y trouver chez vous ce jour-là, pendant ces journées du 29 et 30 avril à Defermes-en-Ferme ?
Et bien donc, ça sera surtout la visite et puis la dégustation des fromages, sachant que de ferme en ferme, on ne doit présenter que nos produits, donc on n'a pas le droit de présenter des produits des voisins et tout, donc on ne présente que nos produits fabriqués et issus de l'exploitation. Donc on découvrira le parcours au niveau des chèvres, donc cette race qui s'appelle la Murcia Granadina, qui est issue d'Espagne. Et on découvrira tout ce qui est fromage avec le label, le Blue Banker, et on pourra faire déguster aux consommateurs et aux visiteurs.
Alors une question annexe, vous disiez au début de l'émission que vous aviez traité en faisant des produits bio. Qu'est-ce qui vous a écarté de cet aspect d'agriculture?
Alors je ne me suis pas écarté du bio parce que je produis très peu, je sors les chèvres sur des parcours, mais j'ai très peu de terres cultivables, donc j'achète toujours du foin en bio. Il y a juste le granulé qui pour l'instant n'est plus en bio. Alors je ne dis pas que je vais parvenir en bio, mais pour l'instant ce granulé-là, pour avoir le label Blue Banker, c'est un granulé qui est surtout qui est sans OGM mais enrichi en graines de lin. Et en bio, il y a un delta de prix qui ferait que le fromage se retrouverait aujourd'hui beaucoup plus cher que je ne peux le vendre. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que le bio, il faudrait avoir une exploitation qui soit en autosuffisante pour produire tous ces aliments et tout. Chose que je n'ai pas, je vous dis, j'ai que des parcours pour l'instant. Donc j'achète le foin en bio, mais le granulé n'est pas bio, donc j'ai arrêté cette certification pour l'instant.
Pendant ces deux journées qu'on peut considérer comme des portes ouvertes, il existe aussi sept autres exploitations dans le Diois qui sont dans cet événement. Est-ce que entre vous, vous contactez au-delà même de ces deux journées?
Oui, oui.
Est-ce que vous établiriez aussi peut-être un circuit particulier dans le Diois?
On n'a pas parlé de circuit particulier, mais c'est vrai que déjà l'organisation de ferme en ferme, on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'est découvert, on s'est connus parce qu'on ne se connaissait pas forcément tous. Et c'est vrai qu'on apporte un plus et on essaye de... Enfin, les gens qui vont faire de la restauration essayent de travailler avec les partenaires du circuit pour proposer ces produits-là lors d'une assiette ou lors d'un repas complet. Bon, et puis on se retrouve dans des points de vente un peu communs aussi, quelque part. Donc oui, ça forme une émulsion quand même.
Pascal, vous êtes du Diois ou alors vous avez atterri ici?
Non, j'ai atterri ici. J'ai atterri ici en 88, donc ça fait un petit bail déjà. Je suis d'Eure-et-Loire, pur Beauceron, donc dans les céréales. Et c'est mes études, mon BTS à Clermont-Ferrand qui m'a fait connaître, pour ne pas le citer, Vincent Viard qui est à l'UJVR aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai atterri dans le Diois en 88.
Et qu'est-ce qui vous a séduit sur ce territoire? Le relief, une manière de vivre?
Il y avait un peu tout. J'étais jeune, j'avais 22 ans quand je suis arrivé. Un peu plus, même 24. Il y avait le climat, ça changeait totalement de ce que je pouvais connaître moi en Eure-et-Loire. Il y avait une manière de vivre, comme vous dites, une tranquillité et un environnement qui était quand même sain, par rapport à ce que je recherchais aussi. Donc voilà, c'est quand on connaît le Diois, après, quand on vient du nord de la France, c'est plus dur de repartir.
Est-ce que vous établissez un blog ou quelque chose de cet ordre sur Internet?
Sur Internet, j'ai un site Facebook et j'ai un site que j'alimente très peu encore, parce que je ne suis pas encore habitué à ce site. J'ai un site sur la ferme de Craponne et c'est surtout Facebook qui marche bien, parce que c'est vrai qu'on se relie vite fait avec les amis et tout. Et donc, j'essaye d'alimenter et je vais présenter donc aussi ferme en ferme sur le site Facebook.
Pardon, l'identifiant de la page Facebook, est-ce que vous pouvez l'indiquer pour les auditeurs?
La ferme de Craponne. Non, mais j'espère qu'il fera beau parce que c'est vrai que le dernier week-end d'avril n'est pas forcément un week-end où il fait beau. Et j'espère que les gens viendront nombreux pour découvrir toutes nos fermes dans le circuit.
Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant de continuer cet événement ou quelque chose de similaire pendant l'été aussi pour faire découvrir aux touristes, non?
Ça serait une bonne idée, ouais. Il faudrait l'organiser pour continuer, comme vous dites, pour que les touristes puissent aller aussi dans les fermes, découvrir comment on produit nos produits et comment on travaille quoi, au quotidien.
Est-ce que, mis à part cette organisation qui est due à la fois au département et à la région, est-ce que dans le courant de l'année, vous avez d'autres soutiens de cet ordre?
Non, non, non. Après, c'est plus des initiatives personnelles que chacun exploite sur son exploitation, quoi. Non, non. C'est vrai que le CIVAM fait un gros, gros travail pour organiser cet événement de ferme en ferme. Et il faut les remercier parce que c'est vrai que ça fédère beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait des formations. Parce qu'on a fait des formations aussi pour être apte à accueillir du public et comment le recevoir, bien le recevoir et bien indiquer tout ce qui est... tout ce qui est chemin d'accès pour visiter l'exploitation et tout. Et non, malheureusement, oui, il n'y a que le CIVAM, enfin, mon goût qui travaille bien à ce niveau-là, quoi.
Nous allons conclure cette émission. Donc, je vais quand même rappeler aux auditeurs le 29 et 30 avril, la Drôme de ferme en ferme. Ben, on parle de la Drôme, mais il y a aussi l'Ardèche, hein,
l'Ardèche
sous-entendu. Et puis, donc, si les auditeurs veulent s'intéresser un peu plus... Et sur le site www.defermenferme.com, alors de ferme en ferme en un seul mot.com. Et vous trouverez sur ce site toute la documentation concernant ce gros week-end. Et puis sinon, soyez curieux, vous pouvez peut-être trouver aussi les dépliants dans les commerces de Die.
Dans tous les commerces de Die, les communes aux alentours, parce qu'on les distribue nous-mêmes, on s'est fait des secteurs chacun, parce qu'on est 8 sur le circuit. Chacun a pris un petit secteur et a distribué dans les boulangeries, les offices de tourisme, les cafés et tous les magasins qui de proximité.
Interview. 1-terre-view.
Ok, de beurre.
L'interview du jour.